Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h43, merci d'être avec nous. On va faire une revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui,
et
Benjamin.
Qu'est-ce qui fait parler ce matin?
Oui, Benjamin, alors les fêtes de fin d'année s'affichent à la une des journaux et notamment de la Dépêche du Midi.
Oui, avec des flocons de neige et ce titre. Hein, et surtout la santé, un vœu qui est d'autant plus d'actualité que le Conseil scientifique redoute une possible troisième vague après les fêtes. Il recommande donc aux Français de s'auto-confiner, ce alors que les élèves qui le souhaitent pourront, eux, stopper les cours dès ce soir. Le Conseil scientifique, dont le président prend la parole ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Il nous demande encore 6 mois d'efforts. Le Parisien qui s'intéresse également au virus mutant. C'est cette nouvelle souche de coronavirus qui vient d'être repérée en Angleterre où elle crée l'inquiétude. Pour autant, ces variantes sont fréquentes et c'est même une question de survie pour les virus, nous explique Le Parisien.
Oui, en tout cas en France, l'heure est au défi du couvre-feu.
Oui, c'est notamment la une de Sud-Ouest qui se demande si l'interdiction de sortie dès 20h sera bien respectée. Autre question cette fois-ci dans l'Indépendant catalan. Oui ou non, peut-on passer la frontière depuis hier? En théorie, la réponse elle est simple, elle est claire, c'est non. Le confinement en Catalogne Sud l'interdit, mais dans la pratique, l'Indépendant fait part de ses doutes de voir une frontière totalement fermée. En tout cas, la pandémie n'empêche pas la politique. À la une de Libération ce matin avec ce titre, la droite à l'état primaire. Vous l'aurez compris, on parle déjà de la prochaine présidentielle avec de nombreuses questions. Quel candidat? Comment le désigner? Le spectre de la primaire de 2016 plane encore chez les Républicains qui peinent à trouver un champion naturel pour unir leur camp.
Oui, et puis à la une aussi, une photo connue de toute la France, celle d'un enfant martyr.
Oui, la photo du petit Grégory que l'on retrouve notamment dans l'Est éclair, le Républicain Laurent ou encore Vosges Matin après ce rebondissement corin dans l'affaire Grégory. En l'occurrence, c'est le corbeau qui aurait peut-être été démasqué. De nouvelles expertises en stylométrie, c'est-à-dire en analyse du style d'un texte, auraient permis d'identifier le ou les auteurs présumés de ces lettres de menaces anonymes. Et ce, plus de 36 ans après les faits, même si pour l'heure, la prudence reste de mise.
Oui, c'est vrai. L'écologie à la une du Figaro aussi, qui évoque le scepticisme suscité par le référendum annoncé par Emmanuel Macron.
Oui, inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. La droite émet des réserves sur ce qu'elle voit avant tout comme un stratagème politique. Des écologistes par ailleurs moitié convaincus, des marcheurs dubitatifs devant le risque politique alors que le Sénat pourrait recaler l'idée. Même la plupart des conseillers à l'Élysée ne s'attendaient pas à ce référendum surprise sorti du chapeau. C'est ce que dit en tout cas le Figaro.
Oui, et puis avis à ceux qui veulent maigrir, vous trouverez des conseils à la une de l'équipe.
Oui, des conseils fournis, tenez-vous bien, par le footballeur marseillais, Dimitri Payet, qui nous dit « Quand je marque, je maigris ». Oui, c'est assez curieux comme remarque, mais ça vient d'un joueur, c'est vrai, qui a souvent été décrié pour ses prises de poids. En tout cas, après un début de saison délicat, compliqué, Payet a encaissé les critiques et le joueur de l'OM a retrouvé le chemin du but et fait partie d'ailleurs de ceux qui ont permis à l'OM de rester en embuscade en Ligue 1, plutôt bien classé en tout cas. Les Marseillais qui affrontent Rennes ce soir, donc à 21h.
Oui, c'est ça. Et puis, puisqu'on est à Marseille, on y reste, ou on y va directement. Merci, Benjamin. Avec vous, Frédéric Chetin, chef des informations générales de la Provence. Bonjour.
Bonjour.
Avec, évidemment, ce coup de théâtre à la mairie de Marseille, dont on parle depuis hier après-midi. Michel Rubirola qui a démissionné, enfin qui annonce démissionné de ses fonctions de maire pour un conseil municipal la semaine prochaine, assez extraordinaire, avec Benoît Payan qui devrait lui succéder. Évidemment, c'est à la une de ce coup de tonnerre, quoi, même si c'était un peu attendu.
Ah, tout à fait, c'était attendu. En fait, c'était attendu même avant l'élection. On n'a jamais senti que Michel Rubirola avait une réelle envie de devenir maire. Elle-même, elle le confie aujourd'hui dans le coin. On le rappelle dans nos colonnes. Sa passion, son objectif de vie, c'était d'être médecin en Afrique. Au lieu d'être médecin en Afrique, elle se retrouve maire de Marseille. Elle aime pratiquer la médecine sur le temps long. On lui propose une mission d'urgentiste à Marseille où tout est à faire. Il faut savoir que la ville est dans un état déplorable. On est au bord de la rupture ici. L'idée de mettre Marseille sous tutelle n'a pas été écartée totalement l'an dernier. Donc, pour vous dresser un petit peu un état de la ville, c'est assez compliqué. Et on rajoute aujourd'hui une nouvelle crise avec la démission de Michel Rubirola, démission qui deviendra effective dès lors que le préfet aura donné son accord.
Oui. A priori, il n'y a pas de surprise à attendre là, du côté du préfet. Non, est-ce qu'il pourrait s'y opposer d'une manière ou d'une autre?
Alors techniquement, le préfet peut s'y opposer en ne répondant pas, ouais. soit en répondant non, ouais. soit en ne répondant pas dans les deux mois. S'il ne répond pas dans les deux mois, la démission de la maire est considérée comme non acceptée. Ouais. Auquel cas la maire, c'est tout à fait procédurier, mais doit lui adresser un courrier recommandé. Ouais. pour réitérer sa demande de démission, enfin son désir de démission, ouais. et auquel cas, ben là, au bout d'un mois, la démission sera considérée comme, comme acceptée. Mais franchement, on ne voit pas le préfet s'y opposer, donc il y a vraiment urgence, comme je le disais, d'autant plus urgence que ça pose des tiraillements au sein du Printemps Marseillais, ce groupe hétéroclite, composé à la fois donc d'écologistes, à la fois d'ex la France Insoumise, de socialistes, de société civile. C'est un peu un conglomérat, et là, ça tenait sur la personne de Michel Rubirola. Il faut savoir que Michel Rubirola a été désigné au sein du Printemps Marseillais par 96% des voix, donc on voit la personnalité que c'est une femme qui est tout à fait agréable, qui est vraiment plaisante.
Elle ne l'avait pas caché aux militants du Printemps Marseillais, qu'elle allait éventuellement passer le témoin par la suite, non ?
Non, ça n'a jamais été dit clairement. Ça n'a jamais été dit clairement, parce que Benoît Payan ne fait pas l'unanimité quand même chez et ça pose d'ores et déjà des tiraillements chez les tenants du Printemps Marseillais, qui disent: nous avons du Rubirola et on risque de se retrouver avec Benoît Payan. Ouais. Donc le fait de dire moi je suis maire, je vais devenir première adjointe. Le premier adjoint va pas devenir maire. Il y a un peu un jeu de bonneteau qui a du mal à passer.
Merci, Frédéric Chetin, chef des informations générales de la Provence. Merci d'avoir été avec nous. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, après 9h. On aura Valérie Boyer, notamment, des Républicains, des Bouches-du-Rhône, qui sera avec nous en ligne après 9h.
Restez avec nous, 8h50. C'est le petit déjeuner de l'actu. Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Yves de Cardrel sont avec nous, et vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300.
Oui, et puis plusieurs sujets sur la table. D'abord, Jean Castex qui est obligé de venir annoncer des mesures où il se fait contredire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Arlette Chabot, dans votre édito.
J'assume.
mais c'est vrai. Et pour lui, c'est compliqué d'assumer, quoi. On va revoir ça. Il y a la colère toujours des policiers, ça ne retombe pas, et ils envisagent de boycotter la réunion de Beauvau au mois de janvier. Elisabeth Lévy, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Et puis Yves de Cardrel aussi sur toutes les conséquences. Et puis cette histoire du PMU notamment. Peut-être d'abord sur les injonctions dans un sens, puis dans un autre du gouvernement. Vous le disiez, Arlette Chabot, dans votre édito tout à l'heure, c'est vrai que Jean Castex, il est là pour essayer de faire avaler un peu les couleuvres, quoi. Et que parfois, il y a des informations qui viennent
C'est lui qui les avale en premier, c'est ça que vous voulez dire, peut-être.
Ouais,
c'est difficile. Tous les gouvernants sont dans des situations extrêmement difficiles, il faut le dire. Ouais. On le voit, quand on les entend, ils s'expriment. Le dernier pays, les Pays-Bas, qui annonce 5 semaines de confinement, et un Premier ministre qui est effectivement lui aussi candidat à sa réélection, qui a des soucis. C'est difficile, mais on n'est pas obligé d'être maladroit souvent, voire tout le temps. Et surtout, il faudrait que le gouvernement... on parle beaucoup de ces 2 jours de congé accordés à tous ceux qui vont à l'école. C'était la mesure surprise annoncée hier par le Premier ministre. Et ça tombe sur la tête du ministre de l'Éducation, des enseignants, des parents. Donc tout ça...
On a du mal, il y a de la cacophonie quand même autour de ça.
Il y a de la confusion, en tout cas, au bout du compte.
Oui. Ce qui n'est pas évident dans le contexte, mais quand même.
C'est surtout ce qu'il faut éviter, parce que pour que les mesures restent acceptables, il faut qu'elles soient comprises, et donc
Elisabeth, oui.
Je vais essayer de les défendre un peu comme a fait Arlette. On commence par une belle défense avant de sortir les bazookas. Ouais. Donc, pour commencer, c'était pas une mesure, puisque c'est une recommandation ou une suggestion. Je ne sais pas très bien. Et dans le fond, c'est presque pire. Mais déjà, sur le fond, si vous voulez, moi, je suis assez scandalisée. Dans le projet de loi séparatisme, qui n'est plus séparatisme, une des mesures qui a fait le plus de bruit, c'est l'obligation scolaire. Vous vous rappelez, à partir de 3 ans, je suis pas sûr que c'est... Alors qu'à 3 ans, il n'est pas question même d'apprentissage, vraiment. Enfin, d'apprentissage, pas en tous les cas, lire à écrire et tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? Finalement, pour Noël, l'école, c'est facultatif, puisque pour passer un bon réveillon, vous pouvez sécher l'école. Mais c'est quoi le message ? si vous voulez. Est-ce que l'école, c'est sacré, comme on nous le dit tout le temps, ou est-ce que c'est à la carte, c'est optionnel? Moi, je suis outré par ce fait, si vous voulez. D'abord, que je trouve j'en ai ras-le-bol d'avoir le sentiment, un jour sur deux, d'être dirigé par M. Delfraissy, dont je rappelle que, toujours que je
président
l'ai pas élu.
Président du conseil scientifique. Non, mais il donne, oui. Il donne ses recommandations, lui,
oui,
au
oui,
gouvernement.
Oui, oui, bah, qui sait, écoutez, qui donne ses recommandations au gouvernement, là, il les a données dans le Parisien. Oui, non, oui. Non, là, il les a pas données au gouvernement, il les a données dans le Parisien, oui. Si vous voulez. Donc, ça ajoute à la cacophonie que pointait Arlette. Et par ailleurs, sur le fond, je trouve ça scandaleux. L'autre chose de dire, bah voilà, pour passer des bons réveillons, vous pouvez faire les conseils pour passer des bons réveillons, si vous voulez, en dehors. On ajoute à ne buvez pas trop et ne mangez pas trop, testez-vous avant. Bon, ça pourquoi pas. Mais l'école, alors ça m'a vraiment, je trouve ça très grave. Et je trouve qu'en plus, ils savent pas ce qu'ils. Comme Arlette, quoi. Ouais. Ils savent pas où ils habitent, quoi.
Oui, oui, oui. Ça, c'est vrai. Yves de Cadrel, d'un mot.
Oui, je ne vais pas tirer un peu davantage sur l'ambulance, parce qu'elle est déjà bien cabossée.
Ouais, ouais.
Comment dire, le problème, c'est pas. Le problème, à la différence de ce que disait Elisabeth, pour moi, ce n'est pas le fond, c'est-à-dire ce n'est pas le problème que les enfants aillent à l'école ou pas.
Ouais.
Le problème. Et à contrario de ce que disait Elisabeth, moi je fais plus confiance au professeur Delfraissy qu'aux politiques. Le problème, c'est la manière de l'annoncer, c'est la maladresse, c'est l'improvisation, et c'est un peu ce qui caractérise quand même. Jean Castex, depuis, en tout cas, depuis la fin de l'été, chaque intervention, ce sont des improvisations, des maladresses, et c'est tout ce qu'il ne faut pas en période de crise. En période de crise, il faut avoir le sentiment d'être dirigé par des politiques qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui donnent le sentiment de savoir là où ils vont, même s'ils sont forcément dans l'improvisation et même s'ils suivent les recommandations du conseil scientifique. Mais il faut à tout prix que nous tous, les 67 millions de Français, on ait l'impression d'avoir un Premier ministre qui sait où il va. Or, quand on l'écoute, on a toutes les impressions, sauf celle-là.
Oui, ça c'est... Arlette ?
C'est clair.
C'est pas faux. Alors, c'est vrai
il n'a pas l'expérience et le recul aussi, le Premier ministre Jean Castex.
Tout le monde navigue un peu à vue, ajuste effectivement les mesures à la situation. Regardez qui aurait pensé il y a encore quelques jours que l'Allemagne serait dans une situation aussi difficile que celle que décrit Angela Merkel elle-même.
Les larmes hier.
Donc, on comprend qu'on ajuste, mais effectivement, il faut quand même, dans le flou ou l'improvisation imposée par la situation, avoir l'air effectivement de savoir où on va et de dire, cette mesure, voilà pourquoi je la prends. L'histoire de l'école, s'il y a le fond et la forme, c'est vrai que ça tombe d'un seul coup, annoncé par le Premier ministre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, alors on se précipite vers les médecins, alors du coup les enfants sont devenus contagieux, on pensait qu'ils n'étaient pas porteurs de virus, l'école est-elle dangereuse ? Plus personne n'y comprend rien. Donc c'est vrai que même s'il faut ajuster, il faut quand même un minimum, et plutôt un maximum, de cohérence, de clarté. C'est la seule condition pour rassurer les Français.
Bon, merci. On va poursuivre le petit déjeuner de l'actualité dans un instant. On va s'intéresser beaucoup à ce feuilleton marseillais qu'on a évoqué d'ailleurs avec Frédéric Chetain de la Marseillaise. On sera avec Franz-Olivier Gisbert et Valérie Boyer pour comprendre quelque chose après ce coup de théâtre, ce coup de tonnerre hier. Michel Rubirola qui veut quitter ses fonctions de maire, 6 mois simplement après avoir été élu. Et puis tout à l'heure aussi, à 9h15, restez bien à l'écoute.
Le cri d'un généraliste en guerre, ça s'appelle « Je ne pouvais pas les laisser mourir » aux éditions JDH Éditions. C'est le docteur Jean-Jacques Herbstein qui sera avec nous. Vous pourrez bien entendu commenter, appeler et donner votre avis justement sur les généralistes laissés pour compte pendant cette crise.
Lui, il a été d'ailleurs un peu, comme beaucoup de généralistes, confronté à ça. c'est-à-dire ne pas savoir que faire quand il avait des appels, les renvoyer vers le 15, pas forcément de matériel. Et derrière, il a essayé de les soigner comme il pouvait. Et du coup, il a été stigmatisé par certains médecins, notamment quand il a parlé de l'hydroxychloroquine, évidemment, et puis d'autres traitements. Même si c'est pas un défenseur acharné de Didier Raoult, mais il l'a dit encore aujourd'hui. D'ailleurs, on devrait chercher aussi un peu des traitements au lieu de laisser les malades comme ça. On va voir ça avec lui tout à l'heure à 9h15.
En tout cas, vous nous appelez 0826 300 300. On revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et ça se passe dans le petit déjeuner de l'actu. On va revenir justement sur ce siège vide, hein, Patrick, à Marseille, avec Franz-Olivier Gisbert qui est avec nous, directeur éditorial de La Provence.
Oui, on va changer de fauteuil, ouais. Enfin d'occupant du fauteuil, quoi, probablement. Franz-Olivier Gisbert, bonjour.
Bonjour.
Et dans un instant aussi, Valérie Boyer, qui sera avec nous, sénatrice LR des Bouches-du-Rhône. Juste avant, avant de voir avec Valérie Boyer les réactions sur le plan politique, sur ce feuilleton en tant que tel, Franz-Olivier Gisbert, Marseille nous habitue souvent à des rebondissements. Celui-ci est encore une fois surprenant ou bon, on s'y attendait du côté de Marseille, quoi qu'il en soit.
C'était un peu attendu quand même. Ouais. On va pas se raconter d'histoire. Vous savez, avant même l'élection, pendant la campagne, certains disaient que c'était vraiment courant, hein, et que il y avait de toute façon un deal et qu'à terme, elle serait première adjointe et Benoît Payan maire.
Ouais.
Et puis les rumeurs ont continué.
Ouais.
Donc, si vous voulez, moi j'ai trouvé la déclaration d'hier pas tellement convaincante.
Ouais.
Pas tellement convaincante, parce que elle donne des tas de raisons, vous voyez. Elle dit « Ah, mais je pouvais pas à cause de la crise sanitaire, ah, je pouvais pas parce que la situation de la ville est terrible. » Bon, ben, à ce moment-là, je sais pas, il fallait pas se présenter, parce que tout ça, je veux dire, on le savait, la crise sanitaire, on venait de la vivre, d'ailleurs, quand elle a été élue. Donc, tout ça paraît très bidon, et puis en plus, rien ne l'empêchait de quitter son poste pour devenir conseillère municipale, retourner à la base.
Et puis Benoît Payan était quand même très présent pendant la campagne.
Benoît Payan,
C'est remarquable, très brillant. On le présente toujours comme un apparatchik. Il n'y a pas de mal à ça.
Bah,
mais
non.
Si vous voulez, on a l'impression que le printemps marseillais, c'est une belle vitrine qui a été préparée là, pour la campagne. Ça a bien marché. Alors on rassemblait un peu tout le monde. Et puis en fait, au bout de quelques mois, la vitrine, ben voilà, elle est tombée, elle est cassée, et on reprend les affaires comme d'habitude. C'est-à-dire, on a fait des vieilles confitures dans les pots neufs. C'est toujours un peu la même histoire.
Ouais.
Et Mme Rubier-Brelat, elle, c'était l'idéaliste, très sympathique. Elle passait bien. D'ailleurs, on peut dire qu'elle a gagné vraiment les élections. Benoît Payan derrière, ben c'est quelqu'un de très pragmatique, mais c'est un socialiste.
Ouais.
Et au fond, moi je pense qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ont l'impression, oui, qu'on s'est un peu moqué d'eux. Mais vous savez, ça va pas durer, parce que bon, Payan d'abord est quelqu'un de tout à fait brillant,
ouais.
Et dans 6 mois, c'est pas sûr qu'on en parle encore.
Ouais.
Mais comment dire, ça donne. Ça laisse une petite tache, quoi, c'est clair.
Bah oui. Il y a un sentiment un petit peu de trahison, quoi, notamment tous les militants du printemps marseillais et puis d'autres Marseillais qui ont élu aussi une femme, quoi.
Oui, c'est-à-dire, on voyait bien derrière les écolos, il y a Barle, qui est un des leaders écolos, qui disait pendant la campagne, ah bah oui, Rubirola, c'est une petite affiche qu'on a mise dans, mais de toute façon, derrière, il y a l'appareil.
Ouais.
Bah voilà, bah, c'est la preuve par quatre, c'est-à-dire le Rubirola n'a pas tenu longtemps.
Ouais.
Et c'est raison, moi, je pense qu'évidemment, il y a des problèmes de santé, c'est sûr, mais je veux dire, dans sa présentation, il y a quelque chose qui colle pas, parce que si on a des problèmes de santé et qu'on veut rester un peu à l'écart, et on n'est pas premier adjoint, parce que maire, c'est un plein temps, mais premier adjoint aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui... Ça colle absolument pas.
Elle aurait pu... Ce que vous dites, Franz, c'est qu'elle aurait pu rester dans son fauteuil de maire un peu plus longtemps et faire le passage de témoin plus tard. C'est vrai que le moment, les circonstances sont un peu étonnantes parce que avant, quoi.
D'autant plus que tout ça a été annoncé avant. Donc, voilà. Alors, c'est sûr que ça va être un petit peu dur à gérer
Benoît Payan.
Payan l'emporte parce que c'est un peu compliqué. Le conseil municipal, c'est très serré entre les uns et les autres. Il y a la droite qui est puissante. Il y a le Rassemblement National qui sera de jouer je ne sais quoi. Vous voyez,
Il peut y avoir une surprise. C'est ce que vous voulez dire, François-Olivier Gisbert?
J'y crois pas du tout, mais on peut avoir une surprise.
Ouais.
Mais bon, une fois que Payan sera installé, ben voilà, je pense que, on peut dire, les fait à vous reprendre comme d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, il y a eu tout ce truc de la... Mais c'est un peu une blague. Pendant la campagne du Printemps marseillais, ils disaient, allez, c'est la fin du système G. Alors, système Gaudin et système Guérini. Guérini, avec lequel, d'ailleurs, Benoît Payen a commencé en politique. Ouais. C'était un peu son... Voilà, c'est là qu'il a appris à faire la politique. On disait, voilà, on va tourner la page de ces deux systèmes. Ouais. Et ben, on remet maintenant un nouveau système en marche. Mais vous savez, c'est la politique. La politique, elle ne supporte pas longtemps les gens qui ne sont pas professionnels. Je pense que le problème de Ruby Rolla, si sympathique soit-elle, il y a des choses qu'elle ne maîtrisait pas. Mais en même temps, moi, je me demande, enfin, ça, c'est des choses qu'on ne saura jamais, peut-être, dans quelques années, mais je me demande s'il n'y avait pas un accord, une sorte d'accord secret. Je serai la tête d'affiche pendant la campagne et après, je vais me tirer, je te laisse la place. Ils sont proches l'un de l'autre depuis longtemps, ils ont été conseillers départementaux ensemble, ils ont été élus ensemble, enfin c'est... Voilà,
C'est vrai que Benoît Payen occupait une large place, puisque nous, quand on est allé à Marseille pour faire les émissions spéciales avec vous, avec la Provence, mon cher France, c'était Benoît Payen qui répondait principalement aux questions, qui menait le lead, quoi, sur les idées, sur le... Voilà.
C'est quelqu'un qui est tout à fait brillant, quand moi je l'ai rencontré, c'est une forte tête, il est très jeune, il a beaucoup, beaucoup d'ambition, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne trompe pas, c'est son adversaire, enfin Jean-Claude Gaudin, qui critiquait beaucoup pendant les conseils municipaux, disait toujours, je pense que lui, il finira maire de Marseille. Il ne pensait pas pour ce coup-là, parce qu'il pensait Gaudin que ce serait Vassal, mais il disait toujours, il va finir par y arriver, parce qu'il est quand même, c'est un très bon orateur, mais c'était un peu à la Gaudin, vous voyez ce que je veux dire.
Marseille est toujours Marseille, quoi, François-Olivier
Gisbert. Oui, Marseille est toujours Marseille, c'est pas le coup de balai que prétendait nous apporter le printemps républicain, quoi. On retourne un peu, bizarre. Il y avait un système G, Gaudin, il y avait un système Guérini aussi, et maintenant il y aura un système P. Voilà, c'est comme ça, système P comme Payen. C'est comme ça.
Merci, François-Olivier Gisbert. Nous avons quelqu'un d'autre, évidemment,
Valérie, et pas n'importe. Oui, Valérie Boyer qui est avec nous ce matin. Bonjour Valérie.
Bonjour
Valérie Boyer. Sénatrice LR des Bouches-du-Rhône,
oui, conseillère municipale à Marseille.
Oui. Alors, François-Olivier Gisbert nous disait à l'instant, vous l'avez entendu sans doute, bien Valérie sûr, Boyer. Elle le salue au passage. France qui vous salue, en fait, aussi. Valérie Boyer, est-ce que, pour vous, finalement, ce n'est pas vraiment une surprise parce qu'on en parlait beaucoup pendant la campagne et ces dernières semaines aussi, ou est-ce que ça change beaucoup de choses et vous allez vous y opposer d'une manière ou d'une autre ?
Écoutez, ce n'est pas du tout une surprise. En fait, on est dans le système... G, comme disait François-Olivier Gisbert, mais de la vieille gauche marseillaise, représentée par Benoît Payen. Benoît Payen ne pouvait pas, compte tenu de son espace au sein du Parti Socialiste, être tête d'affiche. Et c'est vrai qu'on avait trouvé Madame Ruby Rolla pour coller tous les morceaux de cette gauche pastèque marseillaise, c'est-à-dire rouge, rose, habillée de vert. Et aujourd'hui, je trouve que tout le monde est un peu victime de ce système. Les Marseillais d'abord, parce que la campagne, quand même, le slogan, c'est quand même hallucinant, c'était « Ruby Rolla est là ». Ouais. C'était le slogan de la campagne. Et en fait, Ruby Rolla n'a même pas fait 6 mois. Et pourtant, pendant la campagne, on avait dénoncé ce système. Et je trouve que le printemps marseillais vient de faire ses premières victimes. D'abord, ses électeurs lui-même, ses promesses. Ouais. Et donc, Madame Ruby Rolla, qui malgré ses soucis de santé, que personne n'ignorait, y compris pendant la campagne, était un petit peu un leurre pour faire passer les apparatchiks de la vieille gauche marseillaise. Ouais. Maintenant, si c'est pour faire Poutine-Medvedev, je vois pas comment les choses peuvent passer pour... C'est pour ça que je n'ai pas compris la conférence de presse d'hier. Si Mme Ruby Rolla nous dit « c'est compliqué pour moi, pour des raisons de santé », ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais on n'est pas adjoint de la première adjoint de la deuxième ville de France. Mmh. Ça demande un travail à 300% comme le reste. Mmh. Et c'est vraiment, on a l'impression d'une histoire de dupe. C'était couru d'avance. L'histoire a été écrite à l'avance. Tous les journalistes l'ont écrit, l'ont décrit.
Maintenant,
les Marseillais se sont mis devant le fait accompli.
C'est le calendrier, quoi. C'est-à-dire que ça pouvait intervenir dans quelques années, peut-être dans quelques mois, mais là aussi rapidement, au moins 6 mois après l'élection.
Dès la première séance du conseil municipal.
Oui. Oui.
Voilà. Mais bon, ce sera. C'est quand même paradoxal. Quand vous faites campagne, Scubirola est là, le changement, et que vous avez une personne qui représente l'apparatisme marseillais, la gauche marseillaise, mais qui savait pertinemment que c'était pas avec l'étiquette socialiste qui pouvait emporter la mairie, donc c'est la raison pour laquelle cette étiquette a été habillée en vert. Eh bien, on voit à quoi sert l'écologie aujourd'hui à la gauche.
Oui. Alors la suite, Valérie Boyer, avec une question de Cécile.
Oui, est-ce que Stéphane Ravier dit qu'il pourrait demander une nouvelle élection? Est-ce que ça vous semble juste, normal?
Il y aura une nouvelle élection lundi.
Oui. Remettre tout en cause.
Il sait très bien que c'est pas possible. C'est là où on est dans le paradoxe de la gauche marseillaise, qui n'a cessé de dénoncer des systèmes dans lesquels elle se complaît, qu'elle promeut et qu'elle remet en place, mais aussi de dénoncer le système PLM, la loi Paris-Marseille, et là, elle en fait ses choux gras.
Bon, et il peut y avoir une surprise lundi, lors du conseil municipal.
Puis on verra.
Oui.
On verra,
ça va être chaud tout le week-end sur le Vieux-Port, quoi. Hein. Il va y avoir des tractations, non?
Il n'y a aucune surprise à la situation actuelle. Moi, je souhaite à Madame Rubirola un prompt rétablissement, mais j'avoue que je reste sur ma faim par rapport à sa déclaration d'hier, qui me semblait totalement incroyable, je veux dire, c'est contradiction sur contradiction, puis surtout incohérence. C'est-à-dire que je comprends très bien ses problèmes de santé et tout le monde lui souhaite d'aller mieux, c'est une évidence. Et on aurait très bien compris qu'elle dise que sa santé ne lui permettait pas de faire face à la deuxième ville de France. Hein. On n'est pas, on n'est pas à la tête d'une association. Hein.
C'est lourd, bien sûr.
À 1000%, 300%, enfin tout ce que vous voulez, mais c'est un travail à temps plein du lundi au dimanche.
Ouais, ouais.
Mais dire je peux pas être maire, mais je suis première adjointe, ça fait vraiment. C'est l'apparatchisme dans toute sa splendeur. Comme je disais, Poutine, Medvedev tout à l'heure, c'est vraiment ça.
Bon, écoutez, on verra, on suivra ça avec attention lundi.
Bien sûr, et tout ce que je peux dire, c'est que moi, je souhaite le meilleur pour ma ville, bien évidemment, et pour mon pays.
Oui.
Mais j'avoue que je trouve que je suis amère pour Marseille de voir à quel point on prend les électeurs pour des imbéciles en leur promettant du nouveau, en leur promettant de nouvelles méthodes.
C'est du nouveau, Benoît Payan est nouveau aussi.
Benoît Payan n'est pas nouveau.
Il n'était pas à la tête de la mairie.
Non, mais d'accord. Il a commencé la vie publique il y a extrêmement longtemps. Pourquoi vouloir de nouvelles personnes, promouvoir par exemple le tirage au sort, etc. Mettre des partis comme le parti pirate avec la démocratie liquide, trouver que tous les partis sont bidons, etc. Et utiliser ces méthodes. Soyons clairs, disons. Ouais. Moi, je viens du Parti Socialiste, je suis un apparatchik du Parti Socialiste, et aujourd'hui, je ne pouvais pas être maire de Marseille avec l'étiquette socialiste et avec ma candidature, donc il y a eu un accord, c'est tout. Cet accord a été dénoncé pendant la campagne, ils nous ont juré que c'était pas le cas. Aujourd'hui, les Marseillais sont mis devant le fait accompli, et c'est vrai, ont été trompés pendant cette campagne.
Bon, merci Valérie Boyer. Apparatchik, c'est un mot évidemment qu'on utilise beaucoup, c'est militant aussi, engagé, bien sûr, pour beaucoup d'autres personnes dans d'autres partis, on dit pas toujours apparatchik, même, c'est vrai, ça continue. En fait, Arlette Chabot utilise beaucoup, toujours pour qualifier les gens qui viennent
du camp d'en face, ou
du vieux monde qui se renouvelle.
Ce matin, on se demande si Jean-Luc Mélenchon finalement ne regrette pas de ne pas avoir tenté la mairie de Marseille.
Peut-être une
possibilité.
Ça, c'est vrai. Merci. Dans un instant...
On va se demander pourquoi la France a abandonné ses médecins de ville. C'est la question que pose le docteur Jean-Baptiste Erbschan dans ce livre. Hein. Ça s'appelle « Je ne pouvais pas les laisser mourir, le cri d'un généraliste en guerre » aux éditions JDH éditions. Ça, c'est dans un instant. Et puis, on va faire plaisir à quelqu'un, Patrick, ce matin, puisque... On a Cécile au téléphone.
Cécile.
Une autre Cécile.
Ou alors ça, il y a eu de l'avantage derrière, non? Il n'y a pas eu de coup de pouce, non?
J'aurais bien aimé, j'y suis pour pas grand-chose. Qui nous appelle de Seine-et-Marne, qui est la 10e gagnante au standard. Bonjour Cécile.
Bonjour Cécile.
Elle est là.
Elle
a posé
Cécile.
Son téléphone, mais elle n'est pas là. Donc
ah,
je peux...
Cécile.
Ça, c'est les Cécile. Elles se font toujours attendre.
Elle a gagné en tout cas un iPhone. Hein.
Un iPhone
ça,
8,
c'est
oui.
Sûr.
Elle ne sait pas encore, mais j'aimerais pouvoir lui dire.
Ouais, ouais.
Cécile, vous êtes là. 1, 2, 3, vous êtes là. Vous n'êtes
allez,
pas
bon.
Là.
On vous retrouve juste après, évidemment, une courte page de
j'ai
promo.
J'ai peut-être gardé ce téléphone,
voilà.
D'ailleurs.
Et
bah, c'est pour une Cécile.
Vite, Cécile, sinon, Cécile le garde. Hein.
Voilà, c'est ça. Et on revient dans un instant avec le docteur Jean-Jacques Herbstein qui sera avec nous. Pour ce livre, je ne pouvais pas les laisser mourir. À tout de suite.